spirituel aujourd'hui, il serait question de Sainte Gertrude, une très grande mystique qui a vécu il y a 800 ans. Elle est morte en fait, en 1302 ou 1301, on n'est pas sûr, c'est probablement 1302. Sainte Gertrude qui a reçu des révélations sur le Sacré-Cœur et qui ont et qui ont influencé beaucoup, beaucoup, beaucoup l'amour que l'on découvre dans le cœur de Jésus. C'est le cardinal Etchegaray qui a écrit en 1980 cinq lignes magnifiques sur le Sacré-Cœur. Il dit « Le cœur du Christ, sans jeu de mots, est au cœur de notre foi. » Ce symbole, c'est un symbole, le cœur du Christ, évidemment. Et ce symbole ne saurait être, quand on voit les images, là, c'est un symbole, hein, et ce symbole ne saurait être éliminé sans un risque de rationaliser, c'est-à-dire d'assécher, si vous voulez, notre piété. Comment ça? Il dit que le chrétien qui se demande où trouver l'image qui lui dessine sa propre figure spirituelle, ben il doit se tourner vers le cœur du Christ pour y découvrir l'amour. L'amour de Dieu, oui, pour les hommes. Et épuiser l'amour des hommes aussi pour Dieu. D'ailleurs, c'est drôle, je lisais dans le journal Voir, le dernier numéro, un article très intéressant sur John Saul. Et puis, il est question à un moment donné de quelqu'un que je connais, Pierre Neveu, qui est un de nos intellectuels les plus intéressants, qui est auteur aux éditions du Boréal, d'un livre qui s'appelle « Intérieur » au pluriel du Nouveau Monde. Et puis, il dit que le thème de la solitude, ça doit être vu comme quelque chose de positif, d'une valeur forte dans notre culture. Et il parle à un moment donné, c'est pas du tout négatif, cette intériorisation, cette dimension de l'introspection puis de la solitude. On revient, semble-t-il, de plus en plus à l'intériorisation, à penser à ce que c'est que vraiment notre religion, notre foi, pour nous catholiques. Parce que quand on aborde Sainte Gertrude, dont c'est la fête aujourd'hui, on se rend compte qu'elle a commencé sa vie mystique à 25 ans par, ou 26 ans d'autres disent, par une révélation merveilleuse qui l'a transformée. Elle est morte 20 ans plus tard, et donc en 20 ans, elle a connu une union avec son bien-aimé Jésus, d'une manière absolument extraordinaire, hein? Même qu'elle a été stigmatisée dans son cœur. Il faut se rappeler que dans les monastères, dans les milieux monastiques surtout, car elle était moine, elle était bénédictine d'esprit cistercien. Alors, certains la considèrent comme une cistercienne, oui, puis d'autres comme une bénédictine. Alors, dans les milieux du monastère, surtout les spirituels, les mystiques ont médité avec les pères de l'Église, puis la liturgie, là, les vieilles auteurs du début de l'Église, puis la belle liturgie catholique. Hein. Ils ont médité sur quoi? Sur cette plaie. Oui, la plaie qui a été faite par la lance, hein, vous savez, du côté du Seigneur, là, sur la croix, par un centurion, qui voyait bien que le Christ était mort, mais pour être plus sûr, il lui a transpercé le côté droit et a rejoint le cœur du côté gauche. Et le sang et l'eau ont coulé, dit Saint Jean. Et pour les mystiques, c'est le lieu de naissance de l'Église. C'est la source de tous les dons de Dieu. Mais ils ne méditent pas vraiment sur le cœur du Christ. C'est pas l'objet de leur dévotion. Des siècles durant, là, les pères, les écrivains religieux ont rôdé autour de cette blessure du côté de Jésus. Ils ont jeté là des regards furtifs. Puis, c'est curieux, ils en ont approché à pas plutôt incertains, pressentaient, sans pouvoir le définir, une réalité mystérieuse. Et le Seigneur lui-même, bonjour, va intervenir, puis il va révéler ce mystère. Il choisit des femmes, des confidentes. Il va dévoiler, puis livrer son cœur. Tout d'abord, à Sainte Lutgarde. Lutte, L-U-T, garde. Dans les dernières années du 12e siècle, on sent un siècle en somme avant Sainte-Gertrude. Puis il va le révéler ensuite à deux saintes qu'on appelle les saintes d'Elfta. Elfta, c'est un monastère en Allemagne, en Saxe. Elles ne seront pas seulement les confidentes, mais elles vont être les propagatrices de cette dévotion admirable à l'amour de Jésus pour nous dans son Sacré-Cœur. C'est Sainte Gertrude et Sainte Mechtilde. Mais qui est Sainte Gertrude? Elle est née en 1256, un 6 janvier. À l'âge de 5 ans seulement, oui, je vous en ai parlé la semaine dernière, 5 ans, elle est confiée au monastère d'Elfta, près de Eisleben en Saxe. La Saxe fait partie de l'Allemagne depuis 1871, et c'est à la fin du 8e siècle qu'elle s'est convertie au christianisme sous l'influence d'un envahissement de Charlemagne. Donc, on pourrait dire que nos ancêtres français y sont pour quelque chose, d'une certaine façon. Alors, on sait rien de sa famille, ni vraiment du lieu de sa naissance, puis des conditions de son entrée au monastère d'Elfta. Les contemporains ne paraissent pas mieux renseignés qu'on l'est aujourd'hui. La plupart des éditions des œuvres de Sainte Gertrude, elle a écrit quelques livres, se sont faites au XVIIe siècle surtout. Il y a une abondante iconographie aussi, où on fait d'elle une abbesse. Oui, on lui met la crosse à la main. On la nomme même abbesse du monastère d'Elfta, mais c'est une erreur qui est aujourd'hui unanimement reconnue. Elle n'a jamais été abbesse. Ça provient d'une fausse interprétation d'une phrase dont le texte a été ensuite plus ou moins manipulé là, par des éditeurs. Ça a amené à une confusion entre Gertrude et son abbesse, qui s'appelait Gertrude, elle aussi, de Hackborn, qui est née, elle, en 1220, puis qui a gouverné Elfta de 1251 à 1291. Et je vous rappelle que 10 ans après la mort de cette abbesse, notre Sainte Gertrude est décédée. C'est une erreur répandue dès 1595, mais qui n'a disparu de la légende des textes catholiques là qu'en 1953, ça fait pas longtemps, ça fait même pas 50 ans. Il y a un autre problème historique qui est posé peut-être d'ailleurs un peu à fou, c'est à propos de Sainte-Gertrude, c'est celui de son appartenance, comme je vous ai dit, bénédictine ou cistercienne. Alors, il faut pas ici chercher d'appartenance à un ordre, ça n'a pas d'importance de toute façon, parce que l'institution monastique, si on peut dire, surtout pour les femmes, dans ce temps-là, ça échappe à la centralisation. Alors, elles sont plus ou moins bénédictines, plus ou moins cisterciennes, parce qu'il y a le courant de la réforme cistercienne qui vient d'apparaître depuis 100 ans, 200 ans, et puis ça a son influence, hein, au 13e siècle. Là, c'est le cas de... En Allemagne, comme ça, hein. Ils gardent leur indépendance sous la règle de Saint-Benoît, ils sont bénédictins, mais ils sont d'esprit cistercien. Peu importe, entre les cas. Entrée donc à l'âge de 5 ans, Sainte-Gertrude reçoit dans le cloître, là, avec ses compagnes, sous la direction de Mechtilde Hackborn, sœur de l'abbesse Gertrude Hackborn, l'autre Gertrude, là. Elle reçoit une formation très, très soignée. C'est extraordinaire. Son intelligence est très vive. Elle a des dons de parole, une affabilité aussi qui la font aimer de tout le monde. Elle étudie toutes sortes de choses. Elle se distrait un peu, d'ailleurs, de sa vocation par trop d'études. Elle est jeune. Hein? Elle s'adonne donc avec passion à tout ça. Mais à l'âge de 25 ans, là, ou 26 ans, elle fait la découverte de la vie mystique. C'est une vision qui survient, la première vision, le 27 janvier 1231. 1281, pardon, après Compli. Donc, après Compli, c'est le dernier office du jour, ça, avant d'aller se coucher. Il fait noir, il est probablement environ 8 heures le soir, ou 8h30. Il n'y a pas d'événement dans la vie de Gertrude autre que ceux de sa vie intérieure qu'elle nous a raconté, puis qu'une moniale aussi a complété dans son livre, qui s'appelle « Le héros de l'amour divin ». Donc, elle partage ses visions avec une religieuse qui s'appelle Sainte Mechtilde Hackborn, dont elle est seconde chantre à certains moments quand sa santé lui permet, à Sainte-Gertrude, parce qu'elle est assez souvent malade. Elles sont favorisées toutes les deux de grâces mystiques, de révélations, puis alors elles se parlent entre elles, elles se font des confidences. Et leurs deux noms sont inséparables dans l'histoire de la spiritualité. Alors, Sainte Mechtilde meurt en 1298, à peu près 3 ans avant Sainte Gertrude, qui meurt le 17 novembre, je vous le rappelle, à 45 ans. Les écrits de Sainte Gertrude sont rédigés en latin, je vais vous en parler longuement. C'est très, très beau, surtout le héros de l'amour divin, qu'on appelle aussi les révélations. C'est en 5 livres. Puis le noyau essentiel de... C'en est le livre 2 où Sainte Gertrude elle-même a consigné en 1289 le souvenir de son expérience mystique. Il y a aussi des exercices spirituels, mais le titre n'est vraisemblablement pas original. C'est un petit traité de perfection spirituelle. En somme, la recherche de connaissance et d'amour de Dieu est toute commandée chez Sainte Gertrude par une vie d'union. Une vie d'union totale et intime au Verbe incarné Jésus-Christ. Et cette initiation du 27 janvier 1281, là, ça a été une rencontre. Une rencontre de personne à personne avec le Christ. Puis les révélations qui vont suivre, ça ne va faire que développer puis épanouir la grâce absolue, oui, absolue de cette conversion. Mais évidemment qu'il y a des gens qui boivent là le témoignage ou le produit d'une extrême sensibilité. Pourtant, Dom Pierre Doyère, bénédictin, dit bien dans le dictionnaire de spiritualité que plus on pénètre ce message mystique de Sainte Gertrude, plus on découvre la qualité de la vie intérieure de cette grande sainte. Sa fermeté dans ses connaissances théologiques, elle a des belles connaissances théologiques, elle a un zèle lucide aussi, son enseignement est lucide, et en définitive, les exigences profondes de la piété de Sainte Gertrude, ça relève pas tant d'une espèce d'élan sentimental, même si ça a l'air de ça dans certaines descriptions que je vous ferai tout à l'heure, ça relève surtout de la certitude d'une foi, très avertie, puis une doctrine spirituelle solide. Elle s'inspire beaucoup de la liturgie puis de l'Eucharistie. La piété eucharistique dérive de la dévotion à la passion, puis aux plaies, et particulièrement la plaie du côté et le Sacré-Cœur. Le rôle des mystiques d'Elfta, ces deux grandes mystiques, Mechtilde et Gertrude, dans l'histoire de ce culte est considérable. Leur piété envers le Sacré-Cœur n'est pas un simple dolorisme, là. C'est pas de la sentimentalité. Elle se place pas devant la plaie du côté, là, pour avoir des sentiments. Leur piété ne met pas non plus l'accent principal sur le thème de la réparation qui va venir beaucoup plus tard. C'est pas une question de réparation. Le cœur dans la spiritualité de ces cloîtres au Moyen-Âge, c'est non seulement le symbole et comme le siège de la vie affective, mais de tout l'être de Jésus. C'est donc toute la personne du Verbe incarné que le désir d'union fait atteindre en son cœur, où est enclose toute la vertu de la divinité. C'est donc Doyère qui écrit ça. Il écrit aussi l'ultime et complet geste d'amour de Jésus et d'avoir voulu que le coup de lance ouvre l'entrée de notre amour jusqu'à lui. Et on voudrait dire, ben, le problème des révélations chez Sainte Gertrude, ça devrait pas soulever l'émoi des théologiens méticulés, et on va voir jusqu'à quel point, en effet, la pensée de Sainte Gertrude tourne autour du cœur de Jésus, qui est le siège essentiel de tout l'être, que ça désigne la personne, et qu'en fait, elle se réfère à Jésus et à lui-même vraiment. C'est admirable comme pensée. Pour vous donner à tous et à toutes le goût d'écouter ce que je vais essayer de vous livrer du message de Sainte Gertrude, je prends dans l'histoire des saints et de la sainteté chrétienne, dans le 7e tome, qui a été publié sous la direction d'André Vaucher, professeur à l'Université de Paris-Nanterre. C'est paru chez Hachette et c'est distribué, ça c'est grand volume magnifique, par Anne Sigier, libraire et éditrice à Québec. Et On peut lire un tout petit texte sur Sainte-Gertrude et je vous lis ces quelques lignes admirables. L'original latin des œuvres de Gertrude peut seul donner une idée de l'éloquence communicative qui se dégage de cette espèce de prose rimée. Le tout marqué au coin d'un grand équilibre spirituel. C'est que s'explique le jugement d'un connaisseur, l'abbé Bremond, le fameux abbé Bremond, qui écrit, et écoutez bien ça, c'est dans son Histoire littéraire de la spiritualité, ça, au tome 4, « Nous avons des mystiques plus sublimes que Sainte Gertrude, mais je n'en connais pas de plus saines. » Alors on comprend que la tradition allemande lui est attribué le qualificatif bien mérité de Gertrude la Grande. Alors, c'est Dom Pierre Doyer, ce bénédictin, qui écrit « Quand Mechtilde et Gertrude pensent au cœur de Jésus, non seulement il n'y a pas chez elles la moindre tendance, même inconsciente, à le séparer de sa personne, mais en outre, elles n'arrêtent pas leur considération à cette personne, à ce qu'elle était, faisait, souffrait pendant sa vie mortelle, sans se souvenir, c'est très, très important ça, sans se souvenir, ces deux saintes se souvenaient toujours, aussitôt, que la personne de Jésus est maintenue, est maintenant glorieuse, à la droite du Père. Bien plus, ces deux mystiques se gardent d'arrêter leur considération à cette personne elle-même. C'est dans ses relations avec le monde et la Trinité, le Père et l'Esprit, qu'elles la considèrent constamment. C'est donc une solide base doctrinale qu'elles avaient, ces sœurs-là. Elles avaient une vaste conception dogmatique. Pourquoi? Parce que c'était établi sur la liturgie. Quand on vit la liturgie, quand on vit la messe, quand on vit ce que c'est, là, on arrive à avoir une conception dogmatique, une conception des dogmes de l'Église, de tout ce qu'est notre foi, qui devient magnifique. Et on rentre dans le mystère de l'amour divin, parce que tout ça, ça apporte un équilibre, puis une sécurité extraordinaire à des révélations comme celle de Jeanne Gertrude, qui sont très affectives, puis aux visions les plus étonnantes qui sont consignées dans ce livre, le grand livre de Sainte Gertrude, le héros de l'amour divin, qui a été en partie rédigé aussi par une compagne très avertie qui lui avait reçu des confidences. Et c'est là peut-être l'une des notes caractéristiques de la spiritualité de Sainte Gertrude, c'est cette profondeur. Il y a équilibre, en fait, entre la doctrine puis la piété. C'est pas simplement de la piété. Il y a de la rigueur théologique puis de l'affectivité, ce qui est très bien. Il y a de l'humilité aussi puis de la confiance. Il y a une vie de raison, puis une vie liturgique. Il y a la religion personnelle, puis le sens de l'Église. Il y a de la joie et de la compassion aussi dans la contemplation du cœur blessé du Christ. Disons aussi, en passant, pour éviter des malentendus, qu'il ne faut pas s'empresser de traduire dans un climat de sensibilité, encore moins de sentimentalité romantique, des termes qu'elle utilise, Gertrude, des termes affectifs qui touchent davantage à l'être qu'au sentiment. Le cœur est l'expression de l'être, de la personne. Oui, c'est le cœur qui exprime l'être, qui exprime la personne. Donc, il convient pas de transposer dans le domaine seulement sensible des réalités comme le don du cœur, l'échange des cœurs, etc. On risquerait de faire de faux sens dans l'interprétation de ce message mystique très particulier. Ce cœur, donc, est celui de Jésus, de l'homme-Dieu, a éprouvé durant sa vie mortelle, plus particulièrement durant la Passion, des douleurs intenses, hein, auxquelles Sainte Gertrude compatit, avec une ferveur bouleversante, hein. Mais elle sait très bien qu'actuellement, le cœur du Christ ressuscité et glorieux demeure un cœur humain capable d'aimer et de sentir, mais ne peut plus éprouver la souffrance. Elle le sait. D'autre part, sans cesse, Sainte Gertrude passe de la contemplation de ce cœur à la louange de la Trinité. Elle offre le cœur de Jésus à son Père. Tout son culte au Sacré-Cœur baigne dans le climat du mystère trinitaire. Elle écrit toujours en parlant d'elle-même, « chantant de nouveau le Gloria Patri, à Dieu. Gloria Patri. Donc, elle chante de nouveau ça à la louange et à la gloire de la toujours adorable Trinité. Elle conclut le « comme il était » sicut erat par le cœur de Jésus-Christ, réceptacle où se déverse tout le flot de la divinité. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Le Christ n'apparaît pas en solitaire, mais il est toujours en référence au Père et à l'Esprit. Esprit Saint joue aussi un rôle important dans les révélations. Et les plus beaux textes, peut-être, à ce sujet, celui où s'unissent dans une vision particulièrement significative, l'Eucharistie, d'abord, puis le cœur du Christ, puis l'Esprit Saint. Je vous lis ce petit texte. Après la communion, elle parle à la troisième personne, elle offrit à Dieu le Père toute la vie très sainte de Jésus-Christ pour suppléer à son insuffisance. Depuis l'heure, en effet, où elle avait reçu l'Esprit Saint dans la nouvelle naissance baptismale, jamais, elle n'avait offert à cet hôte divin, en son cœur et en son âme, une demeure digne de lui. Cette offrande fut une provocation pour l'Esprit très suave. Il se précipita sous la forme d'une colombe, d'un coup d'aile très rapide, sur le sacrement de vie, en quête du cœur très doux de Jésus, et y pénétra pour bien montrer qu'il est lui-même enclos de manière parfaite en la très sainte demeure de cette poitrine. C'est très particulier comme texte, c'est presque c'est du surréalisme, mais c'est très beau quand il faut le lire, le relire. Si vous avez l'enregistrement, il faudrait réécouter. Alors on peut noter ici, en passant, la grande place de l'Eucharistie dans la vie spirituelle de Sainte Gertrude, mais c'est l'un sujet qui n'intéresse que moins directement sa dévotion au cœur de Jésus. À propos de la signification vitale et personnelle que Sainte Gertrude attribue au cœur, comme c'est fait dans la Bible d'ailleurs, il faudrait souligner que c'est non seulement lorsqu'il s'agit du cœur que le mot cœur revêt son sens plénier, mais elle parle de façon analogue de son propre cœur, comme désignant toute sa personne à elle, Sainte Gertrude. Puis il en va de même à propos de la Vierge Marie, des saints et aussi des personnes pour qui Gertrude intercède. Elle offre à la Vierge le cœur de son fils, et celui-ci comble de joie le cœur de sa mère. On lit ça dans ses textes. Il y aurait là toute une étude à faire. On est frappé de ce que le regard de Sainte Gertrude sur le cœur de son époux Jésus est toujours accompagné d'une perspective ecclésiale. Il y a toujours l'Église. C'est très marqué. C'est le monde entier qu'elle veut parcourir pour trouver des dons à lui offrir, des âmes à sauver. Oh, elle écrit des belles choses là-dessus. Ça ressemble à Sainte Thérèse d'Enfant Jésus. Elle voit les flots de vie qui découlent de ce cœur de Jésus se répandre sur toute la terre. Et cette petite religieuse, cette petite moniale bénédictine cistercienne, je sais, enfermée dans son cloître depuis l'âge de 5 ans, elle a des ambitions immenses, des projets démesurés qui dépassent très loin les limites de son monastère. Oui, elle est comme Sainte Thérèse d'Enfant Jésus. Écoutez, ça c'est merveilleux, c'est très simple. J'irai bien volontiers nu-pied de par le monde entier, depuis ce jour jusqu'à celui du jugement. Et chacun de ceux en qui vous daigneriez trouver vos délices et votre joie, ô douceur de mon âme, je les prendrai dans mes bras pour vous les présenter. De plus, si la chose était réalisable, je voudrais diviser mon cœur en autant de parties qu'il faudrait pour distribuer à tous les hommes, à toutes les femmes, la bonne volonté de vous servir de la manière la plus agréable à votre divin cœur. Il faut bien se demander maintenant comment Sainte Gertrude a vécu la dévotion au cœur du Christ. Tout se joue, oui, tout se joue dans cette existence entre le cœur du Christ et le cœur de Gertrude, entre deux amours, quoi. C'est ça que ça veut dire. Qui se rencontrent, qui se répondent, à l'image de ces dialogues qui abondent dans son œuvre. Et dans l'autobiographie que constitue le livre 2, son mémorial, dans Le héros de l'amour divin, elle rapporte parmi les moments importants de sa vie d'union plusieurs grâces où intervient le cœur du Seigneur. Son cœur a été transpercé par un rayon issu du cœur de Jésus. Et voici trois extraits, puis on va faire une pause. Voici les trois petits extraits. Le feu divin a purifié son cœur, fondu sa volonté, liquéfié son âme, comme une cire et elle a reçu dans le cœur du Christ l'empreinte de la ressemblance divine. Le deuxième petit texte, c'est « Le Seigneur lui a donné son cœur pour demeure, il l'a échangé contre le sien. » Et enfin, en plongeant sa main dans l'ouverture du côté, elle a reçu cet anneau, gage certain de l'alliance. Et aujourd'hui, les questions de Sainte Gertrude, une très grande sainte, qui a d'ailleurs une paroisse à Montréal, dans le nord de la ville, la paroisse Sainte-Gertrude. Elle a laissé des écrits, je vous en ai lu des extraits. Il y en a d'ailleurs un long extrait aujourd'hui dans le bréviaire, dans le... Comment est-ce qu'on appelle ça aujourd'hui? La liturgie des heures, ce que les prêtres récitent, vous savez, certains laïcs aussi. Un très, très beau texte, des élans merveilleux du cœur de Gertrude. Ça commence, « Que mon âme te bénisse, Seigneur Dieu, mon Créateur. Que mon âme te bénisse, et que du plus profond de moi-même, tes miséricordes te célèbrent. Puisque ta tendresse débordante m'en a si généreusement enveloppé, ô mon très doux amant, je rends grâce, autant que je le puis, à ton immense miséricorde. Avec elle, ma louange glorifie cette inlassable patience, avec laquelle tu as si longtemps fermé les yeux sur moi, hein, fermé les yeux sur mes péchés, sur mes trahisons, sur tout ce qui m'éloignait de toi, Seigneur. » C'est ça que ça veut dire. Dans les trois derniers livres de son... trois derniers chapitres, si vous voulez, de son livre, « Le héros de l'amour divin », « Héros », c'est accent aigu, R-A-U-T. Dans les livres qui concernent sa vie de prière... Mais la mention du cœur est plus fréquente, mais l'ensemble du mémorial qui raconte sa vie reflète une théologie de la vie spirituelle. C'est marqué par la révélation de l'amour. Vous savez, les gens qui nous disent, on ne nous a jamais parlé de l'amour, mais mon Dieu, si cette doctrine en est pleine. L'union réalisée par cet amour est non seulement pour elle la source d'une expérience mystique, mais aussi la source d'ascèse aussi. Parce qu'il faut se discipliner pour vivre cet amour. Un peu comme un homme et une femme doivent se discipliner pour vivre leur amour. Ils ne peuvent pas vivre ça n'importe comment. C'est la même chose, dans un sens. Et pour progresser aussi, c'est la même chose. Il faut aller dans le progrès de la vie fraternelle, de la vie à deux. À 25 ans, donc, Sainte Gertrude est convertie, je vous l'ai dit, à l'initiative de Jésus qui se révèle être le seul amour pour elle qui est monial. Depuis déjà 20 ans. Elle passe d'une vie religieuse correcte, studieuse, riche de satisfaction intellectuelle, où il y a eu des faiblesses, à une vie envahie par la présence du Seigneur, envahie, où la conscience de cette familiarité inouïe occupe tout l'horizon de la pensée puis du cœur. Jusque-là, l'esprit était comblé, mais le cœur était sans objet. Son cœur était comme atrophié. Là, l'amour du Seigneur s'est donné dans une gratuité bouleversante. Il provoque une réponse d'amour et l'amour sera désormais quoi? Ça va être le ressort, oui, le ressort de tout le cheminement de son âme. Et c'est à cette lumière qu'il faut comprendre les grâces dont je viens de vous parler. Ainsi, lorsque Sainte Gertrude demande au Seigneur par la vertu de son cœur blessé de transpercer son cœur d'une même blessure d'amour, c'est que là, dans cette région profonde des choix et de la liberté, se concentrent les pensées, les affections, les mobiles d'action. C'est dans le cœur que ça se concentre tout ça. Hein? Prendre ce centre par l'amour, c'est la prendre tout entière, elle. On disait autrefois, je te donne mon cœur. Hein? Ça voulait dire, je me donne tout entier à toi. C'est la même chose. Et quant à la présence qu'elle découvre en son cœur où Jésus repose, là, elle n'est pas contradictoire avec sa propre entrée dans le cœur divin de Jésus. C'est curieux, hein? Et c'est très beau. C'est un peu comme quand on dit, « Oh mon Dieu, tu es en moi. Et je suis en toi. Nous sommes inséparables. » C'est la même chose. Le Seigneur lui a d'abord révélé sa présence. Il lui a appris à se recueillir et à le chercher en elle. Cette attention continue va permettre à son hôte de la saisir. Il va la saisir. Il va la faire pénétrer dans son cœur à lui, où l'union se consomme et où il l'initie au secret de l'amour, de cet amour libérateur, rédempteur, qui sauve, qui libère les âmes. Mais la contribution, peut-être la plus originale, la plus bénéfique aussi, à une dévotion vivante et personnelle au cœur de Jésus, mais ça pourrait être le témoignage que Sainte Gertrude rend à la conduite toute d'amour de son époux. Dans le livre 2, au chapitre 2, si vous voulez, on y trouve la description puis la célébration de tout ça. Gertrude, tout en nuance, elle est très féminine, elle se surpasse ici. Elle est vraiment le héros, H-E, accent aigu, R-A-U-T, comme je vous dis, le héros de l'amour divin. Elle est subjuguée. Elle est confondue par les excès de sa miséricorde. Oh, je la cite, c'est trop beau. Saint Ligne. Il faut que l'amour, oublieux de son honneur, mais prompt à honorer, oui, l'amour impétueux qui devance tout jugement et échappe à tout raisonnement, vous est, ô mon Dieu, infiniment doux, comme enivré, si j'ose dire, jusqu'à perdre le sens pour que vous tentiez l'union de termes si dissemblables, parce qu'elle se trouve tellement dissemblable de Jésus, tellement petite. Cet amour est prévenant. Oui, cet amour de Jésus, c'est patient, attentif, aveuglé par le désir qu'il a de la créature. Est-ce qu'il s'agit de corriger ce qui lui déplaît en elle, de l'émouvoir, de la porter au bien? Eh bien, il a les mille inventions d'une tendresse de père et d'époux. Hein? Parce que Jésus, il est plus ému qu'irrité ou fâché de nos fautes. Il la comble de bienfaits quand elle s'égare. Oui, il nous comble de bienfaits quand nous nous égarons. Quels sont ces bienfaits? C'est ce doux regret, ce retour vers lui, c'est le sacrement de la réconciliation, la confession. Il lui fait subir aussi le martyre de la reconnaissance. Tour à tour, il se tait, puis il attend, il se montre épris et persuasif. Et Jésus, là, est impatient de donner. Il n'attend que son désir. Il lui fait sentir qu'il a besoin d'elle comme il a besoin de nous. Que toutes ses forces d'amour sont requises, que toutes ses facultés devront être utilisées, annexées par lui comme un prolongement des siennes. C'est ça. Tout notre être doit être le prolongement du cœur de Jésus. Ah, si nous étions vraiment donnés, si nous y arrivions. En lisant certains passages, on pense à l'humanité de surcroît, vous savez, de la bienheureuse Élisabeth de la Trinité dont je vous ai parlé il y a quelques jours. On pourrait dire que l'incarnation qui a donné à Dieu ce cœur vulnérable lui a appris d'expérience à Dieu tous les sentiers du cœur de l'homme. Et il y a autre chose, oui, qui est très instructive aussi, c'est la réponse d'amour qu'il requiert de Sainte Gertrude. Oui, il y a besoin d'une réponse d'amour. Ce qu'il veut, c'est son cœur. Le nœud de cette volonté qu'il désire, attentive à ses moindres indications, sans nulle préférence personnelle. La biographie du premier chapitre du livre 1, dans son héros de l'amour divin, eh bien, souligne principalement en elle la pureté, la liberté extrême de son cœur. Ce qu'il veut, notre Seigneur, ce Seigneur, avec une vraie jalousie, c'est une attention constante à sa personne, avec le partage de ses pensées puis de ses sentiments, jusqu'à ne plus supporter d'être distraite de sa présence. Il faut toujours être présent à Jésus et être en présence de Jésus. Toujours se poser la question, qu'est-ce que Jésus ferait? Seigneur Jésus, je t'offre ceci. Seigneur Jésus, je veux avec toi faire mon marché. Je reste avec toi. Je prie avec toi. Oui. Ce qu'il veut, c'est qu'elle use des biens dont son cœur désire l'accomplir avec une confiance totale. Car lui est toujours prêt à suppléer à ce qui lui manque. Il est toujours prêt à réparer, à pardonner, C'est le thème de la suppléance que l'on retrouvera à propos de sa prière. Ce que Jésus veut, c'est la compassion de Sainte Gertrude. Ce sentiment qui paraît mystérieux quand on sait que le Christ ressuscité ne meurt plus et n'a plus besoin de quoi souffrir. Mais l'amour se moque de la durée. Hein. Elle écrit les temps sacrés d'ailleurs, représente ce passé révolu. Un vendredi, elle s'écrit d'ailleurs navrée, « Vous avez souffert tout ce jour ?» Et je m'occupais d'autre chose. Si l'on en vient maintenant à sa mission, à Sainte Gertrude, si l'on se demande dans quel but un tel déluge de grâce a fondu sur cette existence, dans cette existence, il faut répondre que le Seigneur a exigé d'elle, malgré toutes ses répugnances, qu'elle prenne des notes sur ses révélations et ses faveurs. Ça la gênait. Pourquoi ? Prendre des notes, bien, c'est pour fortifier la confiance de toute âme qui vit ici-bas, dit Jésus. Sa vie doit être, en somme, un livre ouvert, où tous puissent s'instruire des secrets du cœur divin. Ce héros-là, toujours H-E, accent aigu, R-A-U-T, est un témoignage, une confession, un dû, quoi. Mais de son vivant, déjà, Sainte Gertrude exerce auprès de beaucoup un rayonnement, demandé, si l'on peut dire, par le Seigneur lui-même. Réconfort, lumière, elle donne des directives aussi. Et le cœur de Jésus les inspire, les prend à son compte. C'est pour ça qu'il réclame de son instrument, Sainte Gertrude, une parfaite fidélité. C'est l'une des explications que l'on peut donner de cette exigence. Et quand il lui dit, d'une façon si merveilleuse, et écoutez bien ce qu'il lui dit, il nous le dit à tous, « Donne-moi ton cœur. » C'est simple, très simple, même banal, mais c'est grandiose. Donne-moi ton cœur. Au cours d'une vision, il montre le cœur de Gertrude, uni et adapté au sien, et devenu ainsi comme un canal qui déverse sur les âmes les grâces et les consolations. On pense à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui exerce auprès de la croix du Seigneur un même office de médiation, quoi. Elle se fait petite médiatrice et grande médiatrice, finalement. Plus souvent, toujours en Jésus-Christ, hein, auprès du Père. C'est Jésus-Christ qui est le seul médiateur. Hein. Plus souvent, Sainte Gertrude est invitée à adhérer à la plaie du côté de Jésus pour y puiser, quoi, ce dont elle manque, et que les âmes viennent chercher auprès d'elle, car seule la charité divine peut répondre à l'attente des âmes, cet amour qui jaillit du cœur brûlant de Jésus, qui en est le symbole, le signe. Évidemment, il faut insister ici sur sa vie liturgique, hein? Et c'est là que ses relations avec le cœur de Jésus apparaissent le plus clairement, et que le zèle dont Jésus l'a animé, il se déploie dans toute son ardeur, c'est son vrai champ d'action. Là, dans la liturgie, elle est associée à la médiation du Christ. Là, dans la liturgie, s'accomplit en toute vérité ce qui est l'œuvre de Dieu et non son œuvre. Toute prière dans l'Église, la grande prière, est présentée au Père, à la messe. Dans la liturgie des heures, c'est présenté au Père. Toute prière est présentée au Père au nom de Jésus-Christ, j'insiste, qui est l'unique médiateur. Sainte Gertrude et Sainte Mechtilde, dont je vous ai parlé au début, ainsi qu'on a pu l'écrire, vivent ce « par le Christ notre Seigneur », comme on dit, en y ajoutant une attention puis une affection plus explicite au cœur de Jésus, elles concrétisent, disons, par le Christ dans un « par le cœur de Jésus-Christ notre Seigneur », « par le cœur de Jésus-Christ notre Seigneur ». C'est beau, hein? Et dans cette œuvre de louange, mais le cœur sacré est à la disposition de Sainte Gertrude, il est l'autel d'or, où elle place les offrandes des fidèles. Et dans son langage, c'est la lyre qu'elle fait résonner, le calice, l'encensoir, qui servent à la liturgie de la terre et du ciel. Car il n'y a qu'une liturgie comme il n'y a qu'un prêtre, Jésus. Jésus-Christ, le Christ. C'est ici que la suppléance joue fort bien, mais devant ses déficiences, mais son incapacité à louer, à satisfaire, à offrir. Mais Sainte Gertrude ne peut que recourir à qui? Mais à celui, Jésus, dont elle sait l'infinie richesse puis la libéralité. Alors elle dispose de la plénitude humano-divine du cœur de Jésus. Elle peut établit sur ce cœur, elle se jette dans ce cœur, comme elle dispose de la Sainte Écriture, qui est un don de Dieu. Elle est nourrie tous les jours de la liturgie, donc de l'Écriture Sainte, puis du cœur de Jésus, puis elle sait en user royalement. C'est merveilleux. Parce que, on le sait, toute dévotion, ça se déploie dans le temps, ça, puis l'amour risque, au sein de la dévotion, il risque de se relâcher, comme tout amour. Mais les dévotions, les pratiques de piété, viennent concrétiser souvent, réveiller, intensifier la dévotio de Sainte Gertrude. Il faudrait vraiment faire renaître nos heures saintes, nos dévotions devant Saint-Sacrement, au cœur de Jésus. Il y a un très beau livre qui est paru avec cette préface du cardinal Che Guevara, qui est paru il y a quelques années, mon Dieu, c'était en 1982, qui s'appelle « Dieu est amour, célébration du cœur du Christ ». C'est un très, très beau livre. Oh, si on utilisait ça dans nos paroisses pour nous stimuler. Saint Gertrude n'a pas connu, comme au 19e siècle, jusqu'au Concile Vatican II, et un peu après, les heures saintes, justement, les amendes honorables, comme on faisait autrefois, les actes de consécration, il en reste encore un peu de ça. Mais en lien avec la liturgie qui inspire toute sa vie, et heureusement qu'il y a ça, cette liturgie qui est au cœur de notre prière, ben, elle a su trouver des mots, des gestes, des exercices pour raviver son ardeur. Alors, quand on lit la liturgie de la messe du Sacré-Cœur, c'est si beau. Hein? Et le tout est assorti parfois d'une comptabilité hein, qui nous surprend, ça nous déconcerte. Elle baise tant de fois les plaies du Christ. Elle redit inlassablement, elle y répète certains versets de psaumes ou des courtes prières de louange pour apaiser sa soif de gratitude. Ça ressemble à la prière hésicaste, comme on l'appelle, la prière qu'on retrouve chez les Russes orthodoxes, qui répète toute la journée, ou le chapelet. C'est si beau, un beau chapelet bien dit. Alors surtout avec une magnifique liberté, Sainte Gertrude se prévaut des relations incroyables, nouées entre elle, petite créature. Et comme on dit, la très sainte et adorable et resplendissante Trinité. Oui. C'est noué entre elle, petite créature, puis la très sainte, adorable et resplendissante Trinité. Nous sommes appelés tous à ça. Hein? C'est inouï. Quelle grande religion que la nôtre. Et de là, ces mouvements intérieurs d'action de grâce, comme je vous en ai lu tout à l'heure, il y en a tellement d'exemples. Que vous soit rendue cette louange éternelle qui, procédant de l'amour incréé, revient perpétuellement en vous-même. Oh, elle a toutes sortes de choses comme ça, des actions de grâce. Alors, on peut conclure en disant que notre époque, à son tour, trouverait profit, me semble, à puiser dans les pensées de Sainte Gertrude. Notre époque voit le Seigneur appelé partout aujourd'hui, vous le savez, des âmes en grand nombre, à la louange et à l'intercession, ça se répand comme un feu sur la terre actuellement. Et il manifeste de façon visible dans des communautés vibrantes le lien entre son cœur sacré puis l'effusion de l'Esprit-Saint. On se rapporte de plus en plus à l'effusion de l'Esprit-Saint. Viens, Esprit-Saint, prends-moi. Et Sainte Gertrude a encore bien des secrets à enseigner. Il y a sa pratique incessante et sa compassion attentive. Il y a aussi sa sérénité. À une génération marquée par tant de désespérance, hein, par la soif si souvent frustrée d'aimer et d'être aimée, eh bien, elle se présente, Sainte Gertrude, avec tout le jeune élan de sa joie, le jaillissement de sa foi, sa confiance d'épouse qui aime et se laisse aimer par Jésus. Elle forme les âmes à la louange, et avec elle, il n'y a pas de risque d'oublier une sainte théologie. Puis le travail exigeant qu'elle implique aussi. Hein? Enfin, il y a tellement de familles spirituelles aujourd'hui qui sont confiées à Saint Jean. Il y en a beaucoup confiées à Saint Jean. Et si elle a, me semble, une indication de son actualité dans ses relations avec cet apôtre, oui, Jean a fait reposer Sainte Gertrude avec lui sur la poitrine de Jésus dans une apparition extraordinaire. Il l'a initiée au mystère des battements du cœur divin. à Sainte-Gertrude qui s'étonne, il dit « Pourquoi avez-vous gardé là-dessus un si profond silence ?» Saint-Jean répond « La douce éloquence de ses pulsations est réservée aux temps actuels, et encore, ou je dirais, aux temps actuels, afin qu'en les écoutant, les battements du cœur de Jésus, eh bien le monde déjà vieilli et engourdi dans son amour pour Dieu puisse retrouver sa ferveur. » Oui, si le monde était engourdi au temps de Sainte-Gertrude, au jugement du cœur passionné de Saint-Jean, eh bien le nôtre, notre monde, est-ce qu'il n'est pas terriblement engourdi? Nous avons besoin de prier sans fin. Sans fin, mon Seigneur, je veux t'aimer, boire à la coupe de ton cœur transpercé, l'eau, le feu et le sang des noces de l'agneau, car voici l'infinie tendresse de mon Dieu. Ô Seigneur bien-aimé de mon âme, donne-moi un cœur de tout petit, pour que tu puisses m'enseigner dans un cœur à cœur avec toi. Donne-moi la simplicité de venir vers toi déposer mes fardeaux et tout ce que je suis incapable de porter tout seul, pour trouver en toi la paix et le repos de mon âme au milieu des épreuves de cette vie. Béni sois-tu pour le refuge de ton cœur toujours ouvert. Que son feu enflamme le mien de la vive flamme de ton amour et le guérisse définitivement de sa tiédeur, pour que ma vie soit toute en toi et te rende gloire. Amen.